Tout de suite sur les docks, Irène Emelianenko, bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette.
Et au programme cette semaine ?
Eh bien cette semaine, nous nous préparons pour un spécial Chicago qui va se dérouler samedi et dimanche sur France Culture. Mais Chicago, la ville des gangsters, déteint sur les docks du côté français plutôt que de celui d'Al Capone. Jeudi, nous retrouverons Saïd Remli que Michel Pomarède avait suivi durant un an après sa sortie de prison pour l'émission Radio Libre. Mercredi, Sylvia nous transmettra ce que veut dire « fille de gangster ». Et mardi, nous serons du côté des femmes et autres âmes sœurs de ces 10 gangsters.
Et aujourd'hui, portrait de Michel Lepage, Alain Cayol et Claude Lucas.
Oui Hervé, nous connaissons Claude Lucas pour son roman « Suerté », primé par France Culture en 1996. Alain Cayol est lié à l'enlèvement d'un baron. Et Michel Lepage est lui un spécialiste des banques. Quant au documentariste de ce Sur les docks, il détient un dictionnaire de l'argot des prisons où voisine se trouvait béton, descendre au lac ou encore avoir une facture de garagiste.
Ah. Un ventilo ?
Un ventilo. Ah, ça y est, elle apprend les mots.
Ventilo, c'est quoi, Michel ?
L'hélicoptère. L'hélicoptère. Des bons souvenirs. Hein.
Octobre 1992.
Mon évasion, évasion de Bois d'Arcy. Avec le bruit qu'on entend là, c'est bon, on recommence.
Voleurs, voyous, des hommes en toutes lettres. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Avec, par ordre d'apparition, Michel Lepage, Claude Lucas et Alain Cayol.
C'était qui aux commandes ?
Aux commandes de l'hélicoptère,
ouais.
Le pilote qui a été pris en otage, menacé par un ami et qui l'a conduit jusqu'au-dessus de la prison, d'où je me suis évadé. Ouais.
Et après, vous avez atterri où ?
Sur un terrain de football, où deux équipes peuvent jouer au ballon tranquillement. Et après, on est couru. Et là, on est obligé de prendre une voiture dont une dame très gentille nous a laissé sa voiture. Sous la menace, bien sûr.
Ça, c'était la deuxième évasion.
La deuxième évasion.
Ouais. La première, c'est 18 août 1977.
77, ouais. 5 jours avant mon anniversaire. Et le fourgon cellulaire a été braqué par des amis à moi. Tout était prévu, bien sûr. Et voilà, mais j'ai retrouvé ma liberté. Il y avait une estafette qui est restée sur place et je crois qu'il y avait une Jaguar et une BMW ou Simca, un truc comme ça.
Alors voilà, va-t-on raconter un hold-up au présent de l'indicatif ? C'est la question que je me posais, que je me pose cet après-midi-là, en descendant avec Paul, Jean-Vien et Tony dans la cave de la gourmandine. C'étaient les préparatifs de l'opération. Ce sont les préparatifs de l'opération. L'enlèvement du sous-directeur aura lieu dans quelques heures. L'enlèvement du sous-directeur allait avoir lieu dans quelques heures. Oui, doit-on raconter cela au présent de l'indicatif ou à un temps du passé ? Ce temps du risque qu'on court, qu'il soit sportif, héroïque ou crapuleux, est en effet un temps à part, comme sorti du contexte. Je l'ai ressenti maintes fois en franchissant la porte de l'autre côté de laquelle, l'arme au poing, j'allais commettre mon forfait. Le temps semble suspendu, et les images défilent à la fois très vite et comme au ralenti. Temps du strictement vital ou instinctuel, où la distance avec soi-même et ce que l'on fait est supprimée, temps pur, brut pour mieux dire, présent à la puissance 10, hyper présent. Oui, si vous voulez... Quand on lit un texte comme ça, l'acte d'attaquer une banque, d'aller enlever un banquier, c'est du brouillon. Et ça devient assez mis au propre quand je l'écris au présent. J'ai toujours adoré l'écriture, j'étais un enfant solitaire et donc je lisais énormément. Et pour moi, la vie, c'était de la littérature en fait. Et qui dit littérature, des contenus, et bon, c'est pas en allant... sur le chemin de l'école ou sur le chemin de l'usine, qu'on a forcément de la matière romanesque. Et pour un petit breton comme moi, élevé par sa grand-mère, par sa tante, et qui a fait sa scolarité chez les prêtres dans un collège religieux, la littérature a pris tout son sens dans cette atmosphère. Et donc j'ai très vite éprouvé le besoin d'écrire, j'ai très vite eu envie d'écrire. Je pense que ma vie a d'abord été avant tout du roman.
Quand mon copain s'effectuait à côté de moi et que j'avais sa tête sur mes genoux, son sang coulant sur mon imperméable, j'aurais voulu mourir, mais terriblement. Comme j'étais blessé aussi, ils m'ont sorti de la voiture. Ils m'ont mutouni par terre avec mon bras cassé et le menotte dans le dos. Il y en a un qui s'est accroupi en face de moi, il a levé son arme vers mes yeux. Je lui ai simplement répondu « tire » parce que je voulais qu'il tire et que ce soit fini.
C'était quand, c'était où?
C'était sur l'autoroute du Sud au mois de mars.
78,
il faisait... Enfin, moi, j'ai eu froid. Voilà, donc moi, j'étais... Ça, c'est l'arrestation. Ma vie était finie, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais j'étais conscient que tout allait basculer. J'aurais préféré à cet instant-là que ça se passe autrement. Je dis tire, effectivement, je lui dis tire, tu me rendras service, je lui dis exactement. Et bon, il l'a pas fait.
Cet homme, c'était un policier, Eric Jung, devenu oui. journaliste à France Inter. Mmh. Et vous l'avez retrouvé des années plus tard.
Oui, oui. Et alors justement, moi je lui ai demandé, quand on s'est revu, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans plus tard, je lui ai demandé, est-ce que tu aurais tiré? En fait, c'était du bluff. Il ne l'aurait pas fait. En fait, ils étaient en colère, parce que c'est pareil, c'est un groupe, c'est comme des rugbyman ou des copains. Ils avaient deux copains qui étaient blessés par balle, donc ils avaient les boules contre les types qui leur avaient tiré dessus. Et donc dans ces moments-là, ça peut baver, pas baver, ça dépend des gens. C'est un moment d'intensité, quoi. Et en fait, on est devenus copains. Hein.
Mars 78, c'est l'arrestation, mais 63 jours avant, qu'est-ce qu'il y a?
Là, il y a l'enlèvement de du baron Empain. Voilà. Un truc de banditisme. On a ruiné la vie du baron Empain et d'un autre aussi. Voilà quoi, c'est la cata.
Le personnage du gangster, il naît comment?
Je sais pas trop, hein. On est jeune quand on commence à faire ce job. On a des raisons psychologiques de le faire. On est beaucoup plus agi que quand on agit soi-même. On est victime à tout un tas de choses. C'est l'éducation. Mais bon, quand on est élevé, quand on est orphelin, voilà, c'est mon cas, pas de parents. On a forcément des problèmes à l'adolescence, des problèmes avec l'autorité, des problèmes avec sa présence au monde. Qu'est-ce qu'on fout là? À quoi ça sert? On n'est pas aimé, on se sent pas aimé. On n'a pas tellement d'utilité sur cette terre. Donc il faut absolument trouver une issue, une échappatoire. Et cet échappatoire, en général, c'est la révolte.
L'enfance? À l'enfance, dans ma banlieue d'Ivry. Enfin, je suis né à Paris et j'ai été élevé en grande partie par ma tante, puisque ma mère était fille-mère. Elle avait 16 ans, donc j'étais. Et quand ma mère s'est mariée en 51, donc j'avais 6 ans, je me suis retrouvé à Ivry. Voilà. Et j'ai changé de nom en même temps. Avant, je m'appelais Gambirasio, maintenant je m'appelle Lepage. Voilà. Et puis j'ai eu une enfance heureuse, hein, avec mes parents, tranquille et tout. Et pas du tout dans le banditisme, hein, c'était des travailleurs honnêtes. C'est moi qui ai arrivé le petit chat enragé, et voilà. Alors j'ai 14 ans, j'ai commencé à déconner un peu. J'ai volé des conneries, puis après j'ai volé l'argent de la cantine. Et puis c'est un engrenage comme ça.
L'enfance, c'était pas aussi.
C'était un tourne-disque. Bah, c'était le rêve de tous les gosses à l'époque. De petite mallette, tourne-disque, et tout le monde voulait ça. Sauf que chez moi, mon père, il n'en voulait pas, donc avec des copains, on a été le voler. Et comme ça, on l'avait mis chez mon copain, et on pouvait écouter notre musique qu'on voulait. Je pouvais pas me permettre d'arriver avec un truc volé chez moi, hein. C'était interdit. Voilà. Et donc on a commencé comme ça, après on a continué. Moi, je travaillais un peu, mais plus souvent
moins souvent que j'allais voler, quoi. Et puis il y a eu l'évolution, le temps, l'évolution.
Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, on est allé trop loin. On est vraiment dans la délinquance, on est devenu vraiment un petit voyou déjà, un voyou en herbe. Et la marche arrière est très difficile. Quand on n'a pas de repères, quand on n'a pas quelqu'un avec de garde-fou, de quelque sorte qu'il soit, là, hop, c'est la fuite en avant, et à un moment donné, ben, vous l'assumez. Donc à ce moment-là, vous êtes réellement, de propos délibérés, délibérément, un voyou.
Bon, les Yosuites, c'est la police qui disait bon, les Yosuites, parce qu'on était vite juif, Ivry, Vitry. Voilà, c'était. Judiciairement, pour eux, c'était ça. Comme on était tous de la région, de ces trois communes. Voilà. Alors moi, j'ai quitté. Ce qu'on appelait à Villejuif Little Italy, c'était un petit quartier où il y a beaucoup d'Italiens qui avaient émigré, comme mes grands-parents, qui avaient émigré. Après, quand ma mère s'est mariée en 51, donc j'ai émigré à Ivry, et dans une commune communiste aussi. Hein. Mais chez moi, je suis arrivé dans une rue pavillonnaire. J'ai trouvé ça désert par rapport à la rue d'où je venais, où tout le monde sortait dans la rue. Là, bon, même pas le droit de jouer au football dans la rue, enfin voilà. Et au bout de ma rue, il y avait des jardins d'ouvriers, un terrain vague où on se rencontrait avec les copains, les copines, et voilà. Et puis dans les années 60, hop, ils ont tout rasé et ils ont monté la cité Hoche. Donc ça a tout changé, des gens qu'on connaissait, qu'on ne voyait plus, qui étaient partis, voilà. C'était le modernisme qui arrivait là. Pour nous, c'était un grand choc parce que on se retrouvait dans l'herbe et d'un seul coup, on ne pouvait plus, même plus le droit de marcher sur les pelouses, des choses comme ça, toi.
Je suis un voyou, je fais mon job.
Le métier, mais ça s'apprend comment, le métier?
Ça se passe sur, comme on dit, hein, au pied du mur, comme un maçon, hein, voilà. C'est à force des petites conneries, ça, voilà. C'est pas comme maintenant, où les jeunes, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec une arme, voilà. C'est vrai, sur nous, c'était beaucoup plus facile aussi, hein, parce qu'ils étaient encore en vélo, les petites voitures. Le temps qu'ils arrivent, on était déjà en train de dépenser notre argent. Voilà.
Arrêtons-nous sur les voitures. Quel type de voiture?
Voiture personnelle ou pour voler? Déjà, quand on arrivait à avoir une belle Peugeot, un bel truc, c'était déjà beau. Après, avec l'évolution, on allait plus vers... Moi, j'ai pas trop connu, mais mon fils, ouais, lui, c'était Ferrari, Aston Martin, dernièrement, hein, voilà. Chez nous, on était encore un peu français, toi. Les BMW, si, ça commençait, les BMW, ouais. Ma plus belle voiture, quand j'étais jeune, c'était la SM Maserati, quoi. C'était déjà le summum de l'époque.
Vous, votre poste, c'était quoi?
Non, on n'avait pas de poste à titrer. Aujourd'hui, c'est toi de chauffeur, toi tu descends, tu vas chercher les sous, machin, mais il n'y a pas de cahier. C'est pour ça qu'on rigole. Déjà, moi je suis, comme on dit, je suis patron de la soupe que je mange, c'est tout, toi. Mais nous, il n'y avait pas de... On s'engueulait, mon pote, il dit, c'est moi qui conduis aujourd'hui, et puis voilà, c'était comme ça. Nous, c'était démocratique.
Je crois que le seul intérêt du braquage, en dehors de sa planification, qui est un jeu de l'esprit assez amusant, était de me permettre de me sentir un peu vivre, de secouer la torpeur dans laquelle je m'enlisais, de me prouver que j'existais encore, que je n'étais pas un fantôme. Avant de travailler en bande, j'opérais seul, j'étais ce qu'on appelle un braqueur solitaire.
Vous étiez dans une équipe, un gang, comme on vous disait à l'époque?
Ah, nous, on était des potes. C'est la police qui nous appelait le gang de... C'est eux qui nous ont appelés, le gang de la banlieue sud. Nous, non, vas-y, on était une équipe de potes, on allait travailler. Bon, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? T'as besoin de sous, on y va, voilà. Parce que bon, avant de gagner plein de sous, on a gagné des petits sous, voilà. C'est comme ça qu'on évolue.
Tu sais, ma vie est d'une super banalité. Les hold-up ne constituaient tout de même pas l'essentiel de mon emploi du temps. Et je ne suis pas un type du milieu à proprement parler. Pas d'histoire de proxénète, pas de trafic de drogue, quelques fous billets de 500 comme tout le monde, pas de station prolongée dans les bars de voyous, pas de discothèque. Pour les decks, les flics, je suis un type du milieu, un point c'est tout, donc mon boulot fini, les bracos, les armes au râtelier, je m'intéressais au théâtre, à la littérature, et comme je me faisais chier du matin au soir, je foutais le camp souvent. Je me tirais à Naples, à Barcelone, à Athènes, une fois à Bombay, à Colombo, ou bien tout simplement à Paris, passer 2 ou 3 jours juste pour changer le décor de mon ennui.
Paris, c'était pour sortir. Pour sortir, aller au cinéma. Déjà, on allait au cinéma. Moi, je me rappelle de chez moi d'Ivry, c'était Les Gobelins. Place Italie, Les Gobelins, tous les petits cinémas qu'il y avait là. Après, les discothèques. Enfin, c'est à l'époque qu'on disait boîte de nuit. Et voilà, et on sortait la nuit dans Paris. C'était... Moi, pendant... Je connaissais pas Paris. J'ai connu Paris à 14 ans. Et j'ai découvert ça... Nous, c'était noir. On en arrivait dans la lumière, tu vois. C'était le contraste de nos banlieues.
Un jour, vous braquez une bijouterie avec le masque de qui ?
Ah, moi, je crois qu'il y avait Giscard d'Estaing, c'est ça ? Ouais. C'est des choses marrantes, quoi, parce que... Surtout quand on sort, le mec, les témoins, nous voient sortir. Un qui me faisait signe bonjour, parce que de loin, certainement, il croyait... Moi, comme je gardais les gens, de loin, il devait se dire, qu'est-ce que ce mec ? Puis, c'était du latex. Donc, quand t'es loin, tu peux pas... Et en sortant, c'était plus la même chose. Il est parti en courant, toi. Des choses marrantes, des choses comme ça.
Peu importe où ça va. Le train est en route et ça fout le camp.
Mais ça déraille aussi.
Le déraillement fait partie du circuit, hein. De toute façon, quand on est un temps soit peu, Lucie, j'ai eu la chance un peu d'avoir une bonne scolarité. J'ai toujours été très, très épris de mes devoirs. Moi, j'étais un très bon élève. Vous acquérez un minimum de sens commun quand même, mais pas un abruti. On sait bien que ça va pas. On a beau croire à sa chance, soirée. Mais bon, la chance, on sait bien que c'est pas un bagage qu'on emporte avec soi du matin au soir. Hein. Il fout le camp.
J'ai effectué un mini sondage parmi mes copains, tous condamnés à 20 ans ou à perpétuité. À qui écrit-on au bout de 10 ans ? Pour dire quoi ?
Je suis un taulard, chérie. Un petit morceau d'homme, dur, sec, limité dans l'espace et dans le temps. Et j'ai beau faire, je me heurte à ces limites étroites de moi-même. Et il y a tout mon passif, tout mon passé, cette solitude qui est comme ma deuxième peau. Alors c'est une lettre écrite dans la prison de Séville. Donc j'étais incarcéré en Espagne depuis un an, où j'avais été arrêté au cours de ma cavale.
Et vous l'écrivez à qui ?
Alors, je l'écris à celle qui allait devenir ma femme, et dont j'avais fait la connaissance par l'intermédiaire de la femme d'un de mes associés, comme on dit, un de mes assos, qui m'avait écrit en prison. Elle avait des nouvelles par le journal, elle avait su que j'étais enfermé là-bas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au bout de 2 ou 3 lettres qu'elle m'avait envoyées, je lui ai dit « Tu ferais mieux de m'écrire, tu ferais mieux de me trouver une nana. » Voilà, comme ça, je lui ai dit ça sous le ton de la boutade. Hein, je n'avais pas une vraie demande. Il y en avait une quand même, sinon j'aurais pas dit ça. Et elle connaissait ma femme. Et elle lui a parlé de moi. Et j'ai eu la chance extraordinaire. Hein. La soirée, c'est ça, la chance. La chance extraordinaire que ma femme est une femme qui ne tourne pas 10 fois les pieds dans son sabot et qui a décidé de m'écrire tout de suite et de venir me voir tout de suite, ce qui est absolument prodigieux quand on y pense, venir de là où j'étais en France jusqu'à Séville pour me rencontrer. Rencontrer un homme qu'elle ne connaissait pas, qui avait la réputation d'un voyou tout de même, qui était ma femme n'appartient pas à ce milieu-là du tout, tant s'en faut. Donc c'était pour une démarche qui pour moi me paraissait complètement insensée, qui n'était pas promise à l'avenir. Ça pouvait pas durer de mon point de vue.
Moi je faisais un DEA sur les mentalités des écrivains au 19e siècle et particulièrement la correspondance de George Sand. Donc je me documentais, je suis tombé sur un article signé par un professeur. Cet article, il m'a intéressé. Je lui ai envoyé une lettre en lui disant « Voilà, j'étais un étudiant spécial parce que j'étais incarcéré. Est-ce qu'elle voulait bien me donner quelques précisions sur tel ou tel point ?» Comme elle, c'était une spécialiste de la correspondance. Elle m'a répondu... Donc, ben, on a commencé une correspondance comme ça.
Alain Cayol, vous êtes passé assez rapidement du vous au tu.
Alors, moi, je ne cherche pas, en écrivant à ce prof, je ne cherche pas à correspondre avec une nana. Voilà, je cherche un renseignement pour le travail que je fais. Donc, elle, quand elle commence à... À sortir du sujet, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais plus qui a proposé de tutoyer l'autre. Enfin, ça s'est fait, mais j'étais pas préparé à ça. En fait, au départ, je comprenais pas très bien, quoi. Alors, elle, comme c'est une femme spécialiste des correspondances, ça devait l'intéresser, donc elle avait un cobaye sous la main. Voilà, en gros, c'est ça.
Alors, c'est une lettre du 25 juin de la même année. C'est d'ailleurs là que réside l'ambiguïté d'une relation avec un détenu. Qu'est-ce que celui-ci peut bien apporter, franchement ? Si le type est sincère, et c'est mon cas, il ne peut pas manquer de se le demander, et je me le demande, que puis-je donc t'apporter ? Tu peux me le dire ? La compréhension ? C'est moi, en principe, qui aurais besoin d'être compris. Ma gentillesse ? Je suis un grand méchant. Mon expérience ? Tu n'es pas une gamine, je ne vais tout de même pas t'apprendre à attaquer les banques. Et un peu plus loin, je dis, tu as une écriture fluide et ferme, tu me fais l'impression d'une fonceuse et d'une décontractée, impression toutefois curieusement démentie par la discrétion du contenu de ta lettre.
Je pense que vous êtes peut-être étonné que je ne réponde pas « ami » à votre « cher ami ». Je ne veux pas vous appeler « ami » alors que nous n'avons aucune preuve de cette amitié. Les mots, ça ne suffit pas. Oui, je... Voilà, je me sentais embarqué dans quelque chose que... Ça s'appelle se prendre au jeu, voilà. La lettre, c'est le piège, parce que... la lettre, comme elle l'entendait, elle, ça voulait dire « envoie-moi ton journal intime ». Par définition, un journal intime, ça s'envoie à personne et ça se fait lire par personne. Si on est ami, voire amoureux, ben, on arrive forcément dans l'intime. Alors, le journal et la lettre, ça a tendance à se confondre après, parce que la force des choses fait que vous êtes dans l'intime. Et en prison, souvent, c'est ça. Hein. La distance est tellement grande que vous n'arrivez pas à garder la distance.
En même temps, Alain Cailleul, c'est intime. C'est pas un intime que vous partagez à deux, puisque cette correspondance est ouverte par l'administration pénitentiaire.
Si vous êtes en prison parce qu'on vous a retiré votre permis pendant 2 mois, vous allez avoir une espèce de pudeur qui fait que vous n'allez pas dire à votre femme des choses que vous diriez. Si vous êtes en prison depuis 10 ans, tout ce qui concerne les matons, entre guillemets, c'est-à-dire que votre correspondance peut être lue, vous en foutez complètement. Pas de problème. Au bout d'un certain temps.
On ne s'est jamais senti, Hélène et moi, dans le train-train de carcéral des prisons françaises, avec ces parloirs, ces machins, où il n'y a aucune poésie, aucune échappatoire possible. C'est la continuité de la prison. Tandis qu'en Espagne, c'est très différent d'une part. C'est à Séville, là on parle de Séville, mais après ce sera ailleurs. Il y a ce soleil, il y a cette atmosphère assez particulière. Il y a aussi, qui nous environne, on n'a pas, et c'est pas présent bien sûr tout le temps, mais ce respect que là-bas les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, ils ont pour les familles, parce qu'on est en Espagne, la famille a de l'importance, on rend pas les choses plus compliquées qu'elles n'ont besoin de l'être. Et il y avait surtout le fait qu'on pouvait avoir des relations beaucoup plus libres. De deux façons, la correspondance d'une part n'est jamais lue dans les prisons espagnoles, donc on peut écrire ce qu'on veut, comme on veut, et sortir ce qu'on écrit comme on veut. On connaît déjà la liberté d'un rapport à l'autre dans une relation amoureuse ou simplement humaine à ce moment-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a des vis-à-vis, ce qu'on appelle les vis-à-vis en espagnol, les vis-à-vis, et qui sont des parloirs intimes. Déjà là, il y avait cette espèce d'horizon. Quand on s'écrivait, on savait que si on voulait se rencontrer, on allait pouvoir le faire, on allait pouvoir construire quelque chose. Et donc, ce qui est en question dans ce texte-là que je viens de lire, c'est ça, c'est qu'on commence à se découvrir librement, puisqu'on sait que personne ne va lire le texte. On peut se permettre d'être sincère. Et puis, il y a cette irréalité aussi, qu'elle vienne me voir si loin, en Espagne, alors que moi, je sais que j'y suis pour des années. Ça va durer un bail fou. Je suis en plus dans un environnement qui m'est un peu étranger, enfin, au sens strict du terme, c'est pas le même argot, c'est pas les mêmes codes de voyous, etc. Beaucoup de junkies. Donc tout ça, on est dans le roman encore. On est toujours dans le roman.
C'est pas une fierté non plus d'aller en prison. Mais on y est, hein. On est cuit, comme on dit. Faut assumer. Voilà, et on a toujours assumé. On a assumé la prison, assumé et encore la prison, parce que je me suis évadé deux fois. C'était dur à assumer, mais bon, on savait que par l'exemple des grands, comme on appelait nous les grands d'avant, qu'un jour ou l'autre on allait en prison. Donc on était préparé à ça.
Mais dedans, tout de suite, l'évasion dans la tête.
Ah ouais, ça c'était déjà avec mes amis de toujours, que j'ai encore, c'était ça. On a dit, le premier qui va en prison, s'il veut s'arracher, on va le chercher. Voilà. Et manque de chance, c'est moi le premier qui est tombé et ils sont venus me chercher.
Comment écrire ? Comment décrire mon inertie sans me mentir à moi-même et sans me moquer du lecteur ? Et quel lecteur, du reste ? Je me mets soudain à rire. Je répète à haute voix « lecteur, 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 lecteur » sur des tons différents. Je délire. Mon voisin doit m'entendre. Je l'entends bien quand il pète ou qu'il brame du flamenco. Il pense peut-être que ce français quadragénaire qui a l'air dans le patio, si sérieux, si raisonnable, perd en douce la raison. Il a raison. D'abord, j'ai été saisi par le côté, encore une fois, très littéraire de la prison espagnole où j'étais, très flamencante, des gitans qui tapaient la guitare, qui hurlaient, qui se piquaient, qui fumaient, enfin quelque chose d'absolument invraisemblable, habillés comme des sous avec des bandeaux, des bandanas sur le front, le couteau à la main, enfin bon, tout un véritable spectacle. Donc là, je me suis dit, là, il faut que t'écrives. La deuxième chose, c'est que j'ai été baluchonné très vite à la prison de sécurité d'Alcalameco, prison vraiment de sécurité, et on s'est retrouvé avec des Français, des voyous corses, etc., et on pensait qu'à une chose, bien sûr, s'évader, on était en train d'essayer de mettre au point une évasion, tous ensemble, par hélicoptère, des choses comme ça, et puis finalement, ça n'a pas marché, et on a eu un Espagnol qui voulait se mêler à nous, qui savait qu'on était des voyous, il s'est dit, bon, avec ces gars-là, c'est le bon plan, je vais pouvoir m'arracher, et puis on l'a mis à l'écart, ce garçon. Et puis finalement, on n'a pas réussi à mettre au point notre projet, parce qu'on a été baluchonnés, l'administration s'est méfiée de nous, ils nous ont dispatchés les uns les autres. Et quand je suis arrivé à Séville, mon deuxième séjour à prison de Séville, je lis dans le journal que cet Espagnol dont on ne voulait pas, s'était évadé seul de la prison d'Alcalameco. Ce type comprenait pour un baltringue, pour un pouilleux, tout seul, il s'est évadé de la prison d'Alcalameco, qui est une prison de haute sécurité. Et là, je me suis dit, quand j'étais donc à Séville, que j'avais cette idée de roman qui me trottait à la tête, je me suis dit, t'es vraiment une merde, t'es vraiment un type bon à rien, tu peux pas t'évader, t'en es pas capable, c'est vrai que je suis pas un type très très physique. Ta vie est un échec total, et tu as ce gars-là qui a réussi son évasion, il faut que tu fasses quelque chose, qu'est-ce que tu es capable de faire, et de le mener à bien jusqu'au bout. Et c'est là que Suerte a pris naissance, et que j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de terminer ce putain de roman.
Je vais bien le 357, voilà. Bon, c'était encore les trucs à barrier, un peu. Il y en a qui aimaient le 1143, d'autres les calibres à barrier. Comme un pistolet de cow-boy, là, les pistolets de cow-boy, c'est tout. C'est une arme impressionnante, hein. C'est du gros calibre déjà, c'est impressionnant. Ouais.
C'est lourd ?
C'est lourd, très lourd, ouais. Je crois que ça fait 1,5 kg, 1,6 kg. Ouais. Donc ça fait mal. Ça fait mal si on tape sur la tête à quelqu'un et même par le calibre. Passer dans la ceinture, c'était plus facile pour rentrer, pour sortir. Ouais. On le prenait juste quand on allait travailler. C'était même interdit. Pour nous, c'était interdit. Si on se faisait serrer avec un calibre, c'était 3, 4, 5 ans tout de suite, donc on ne voulait pas. Après, sur le travail, pour aller travailler, c'était autre chose, quoi.
Bandit à l'ancienne.
C'est pas nous qui le disons, ça. Bah, les valeurs, elles ont été beaucoup données par le cinéma, pareil. Hein. Bah, les valeurs, il y en a des. Chez les ouvriers, il y a des grandes valeurs. Chez les bandits, il y en a des valeurs. Il y en a des moins grandes. Il y a des indiques. Il y a tout ça. Donc, non, il n'y a pas de. Bandit à l'ancienne. Nous, on les appelait les grands, pas les anciens, on les appelait les grands. On les regardait, les beaux costards, les machins. On dit, bon, bah, c'est peut-être ça la bonne vie, quoi. Et on a pris ce chemin-là. On ne sait même pas comment on a fait. Moi, mon premier vol, j'ai même pas. On a été dans un prisonnier, qu'on a pris le Topaz et on est parti. J'ai tellement eu peur que je me suis bourré de disque. Moi, je voulais Johnny Hallyday, je suis revenu avec un accordéoniste et un truc comme ça, toi. J'ai été obligé d'y retourner, toi.
J'ai eu un incident avec la machine qui m'empêchait de travailler vendredi et samedi. J'en aurais chialé. Aucune des lettres de la partie droite du clavier, quand je les tapais, ne déclenchait la course du chariot. Pour finir, de rage, j'ai démonté le fond de la machine et j'ai trouvé la panne, moi qui ne sais même pas déboucher un lavabo. Une vis s'était tirée, je l'ai remise, et miracle, ça a marché.
Alors, je fais ici une expérience particulière. Comme on ne peut gérer l'espace, on le transforme en temps. On se fait des emplois du temps pour pouvoir les changer et se sentir libre. Je sais que ma vie n'est pas là. Ici, c'est un ailleurs que je ne veux pas considérer autrement. Oui, c'est-à-dire... Moi, j'ai reconstruit une vie intérieure. Maintenant, est-ce que les autres le font ? J'en sais rien. Mais vous reconstruisez, on est fait pour ça. Alors moi, je n'avais pas assez de temps en prison. Alors, et puis si vous lisez un jour la correspondance de George Sand, vous verrez que c'est long. Hein. Il y a 22 ou je sais pas 25 volumes. C'est toujours la même chose, donc ça déjà, voilà. Alors après, vous vous distrayez, donc moi, j'avais pas assez de temps.
Comment es-tu, ma petite femme ? Est-ce que tu tiens le coup ? N'es-tu pas trop triste ? Que fais-tu de tes journées, du temps qui passe, nous fait et nous défait, si seuls et si unis à la fois ? Puis entends-nous continuellement pour que quelque chose de beau survive à tous ces désastres ? Tu es belle. Je veux te voir nue, t'embrasser, te bercer. Je veux être sur toi, dans toi. Je veux être sous toi. Que tu ne sois pas malheureuse. Que tu sois heureuse. Que tu m'aies, moi, nuit et jour. Que la lumière du ciel pleure sur toi. Que tu ris. Que tu cours, 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 nu sous la pluie vers moi, toujours. Là, est-ce que tu es contente ? Je suis ton mari, ma femme chérie. C'est ma raison d'être, Claude.
Vous écrivez le matin votre roman, et ensuite vous écrivez à Hélène. Dans quel état vous êtes quand vous passez de l'écrivain à l'homme amoureux, on va dire ?
Alors comment je passais de l'un à l'autre ? C'était deux mondes différents. Enfin, ça s'accompagnait quand même, parce que dans mon roman, je me mets à plat et j'essaie de transformer en œuvre littéraire mon chaos. Et avec Hélène, quand j'écrivais mes lettres, j'accouchais aussi de mon affectivité, disons. Voilà, peu à peu, elle naissait. Quand elle venait me voir là-bas en Espagne, elle repartait avec mes chapitres écrits. Donc elle a vu l'œuvre se construire. Et donc c'est devenu un peu indissociable, cette correspondance. Moi, je devenais un homme social en faisant ce roman. Et je devenais aussi un homme, tout simplement... en lui écrivant et en la voyant régulièrement en Espagne.
Cela fait deux jours qu'immobile sur mon lit, je regarde les gouttes de sueur rouler sur mon corps. Un bon petit cube de béton bien exposé avec un zombie dedans, voilà la situation. C'est dans ces conditions que je réussis ton « je t'aime ». J'ai baissé les bras, lâché la lettre, fermé les yeux et je suis resté comme cela très longtemps, un sentiment d'irréalité.
Vous échangez sur George Sand, vous échangez sur la correspondance, vous échangez sur la littérature, vous passez au tutoiement et à un moment, Mireille Bonnel vous écrit « Je t'aime ».
Ben oui, je suis effectivement resté les bras ballants. Moi, alors, si je suis tombé amoureux dans cette histoire, c'est de notre correspondance. D'abord, je ne voulais pas de photos, pas de parloir. Ça permet de construire des fantasmes, avoir juste des lettres. Alors, évidemment, envoie ta photo. Ah, t'es pas mal, je croyais que... Au parloir, non. Ah ben si, quand même. Voilà. Et en fait, c'est plus du tout la même chose. Bon, mais après... Voilà.
Mais quand vous êtes en prison, donc que vous payez pour cet enlèvement du baron Pin, est-ce qu'à un moment vous auriez pu être un peu voyou avec elle ? Est-ce que vous avez vu des gens emprisonnés se servir de filles à l'extérieur, de femmes qui leur écrivent, qui viennent au parloir ?
Ça marche dans les deux sens. Et bon, alors on va commencer par les petites annonces des filles. ou des annonces genre, je crois que c'était chasseur français ou je ne sais pas quoi. Évidemment, elles envoyaient une photo, c'était Miss Monde. Et le mec qui allait à l'atelier, qui était à Clairvaux ou un machin, il envoyait sa paye en Polynésie. Alors, évidemment, la correspondance, elle va servir à ça, à essayer de faire venir une nana au parleur sexuel, bon, à lui demander de l'argent ou à je ne sais pas. Mais ça, oui, bien sûr, ça existe. La première lettre où on vous dit, bon, sois sympa, envoie-moi un mandat, c'est peut-être pas la peine de continuer.
Alors, je reste sur le souvenir de ce qu'il y a eu de bien, de bon dans ce vis-à-vis. Je crois surtout qu'il y a eu la naissance, c'est ainsi je le ressens, de nous deux ensemble. Non plus toi et moi en face, là-bas, de l'autre côté, mais nous deux l'un pour l'autre, tranquillement. C'est en train de devenir une réalité. Je suis en train d'imaginer notre couple. Ce mot seul, d'ailleurs, engendre déjà une brutale et délicieuse résonance dans mon esprit. Je ne me suis habitué ni à le prononcer, ni à le penser. Dieu, que c'est bon. J'étais au cœur d'une aventure telle que j'avais toujours rêvé d'en vivre une, c'est-à-dire une aventure, un banditisme si on veut, mais enfin, voilà, une aventure, quelque chose d'un peu ordinaire, qui m'arrivait, non seulement par le fait que j'étais incarcéré, que j'étais arrêté pour de longues années, donc là, le destin avait frappé dur, là, j'avais quand même 46 ans, un truc dans ce goût-là, et j'en avais pour des années, donc normalement, on est déjà à la retraite, là, c'est la fin des haricots. Et moi, curieusement, j'avais brusquement, j'étais au cœur de mon aventure, j'étais en pleine, comment je pourrais dire, en pleine épiphanie de destin. Le destin se concrétisait, il y avait de la réalité à mon destin, et puis il y avait cette femme qui apparaissait, et puis mon roman qui se construisait, qui prenait corps. Tout ça a été mêlé, c'était fantastique, c'était à la fois tragique, parce que j'ai eu conscience très vite que notre relation, on allait souffrir. Si on commençait à s'aimer, on allait souffrir.
Votre fille, je peux donner son prénom ?
Ouais, Ghislaine.
Elle dit, je suis une fille du parloir, une femme du parloir.
Ouais.
Et elle le revendique.
Elle le revendique, la pauvre, parce qu'elle était obligée. Elle faisait, à un moment, on est tombés tous, même la mère de mes enfants qui était en prison. Donc c'est elle qui se tapait tous les parloirs. Elle faisait, donc moi, trois parloirs, son frère, mes deux fils, parloirs. Pas en même temps, et la mère qui était à Fleury, pas en même temps. Donc je crois qu'elle faisait 12 parloirs par semaine. Donc elle pouvait dire, ouais, je suis une fille de parloir. Et, ben après, il y a eu l'évolution aussi. Je suis retombé, elle est revenue me voir. Voilà, elle allait voir ses frères, elle était toujours derrière. Quoi, voilà. C'était une mère, c'était, pour nous c'était une mère, parce qu'elle venait au parloir. Moi, en tant que père, c'est plus mes fils et ma fille qui ont été mes parents. Et la famille, elle est soudée comme ça. Nous, on s'est soudés comme ça. Et mes enfants, ils me rappellent, quand je suis tombé, ils avaient quel âge ? Le grand, il avait 6 ans, 4 ans et 2 ans. J'ai retrouvé, ils avaient 14, 15 ans.
Mais quand vous partiez en cavale, quand vous êtes évadé, la famille, elle est où ? Comment vous faites pour la voir ?
Ben, la première évasion, j'ai pas voulu partir. Pourtant, on me proposait de partir en Amérique du Sud, tout ça. J'ai dit non, mais mes enfants, ils sont là, je pars pas. Je connaissais le risque, mais je voulais pas partir. J'avais de l'argent à récupérer pour eux, parce que je voulais pas partir et rien laisser. Voilà. Donc, je suis resté là, et puis à un moment, je les ai pris pour aller au sport d'hiver, et c'est là que je me suis fait arrêter.
Vous avez deux autres fils ?
Ouais.
Laurent,
ouais. Il a fait deux, trois conneries, puis après il s'est retiré. Maintenant, ils vendent des voitures. Et mon autre fils, malheureusement, il s'est fait assassiner. Ouais.
Sergio,
ouais. Mon fils Sergio, il s'est fait assassiner. Ouais. Ouais. J'étais en prison, j'étais à trauma de ma libération. Ouais. Ma mère est morte, ils ne m'ont pas laissé sortir. Mon père est décédé, ils ne m'ont pas laissé sortir. Et mon fils, ils ne m'ont pas laissé sortir.
Un des premiers mots de Suerte, c'est le mot « mort ». Avec une question, est-ce que je n'étais déjà pas mort à ce moment-là ?
Bon, ça, c'est l'incipit du livre. Et vous savez sans doute que les incipits, on ne les programme pas.
Dans Suerte, vous avez déjà presque le mot muerte, déjà, vous avez déjà là-dedans. Puis il y a toute une dramaturgie. J'ai construit ce livre sur le mode de la dramaturgie espagnole. Suerte, c'est aussi le nom des trois actes de la corrida. Hein, Suerte des banderillas, Suerte des varas, la pique, Suerte des matards, la mort. Donc Suerte a une connotation très flamenco. Donc c'est un peu normal dans ce genre de contexte qu'on parle de la mort, surtout qu'il était écrit en Espagne, où la mort était présente dans la prison. Hein, il y avait combien de règlements de compte j'ai pu assister avec la drogue, là-bas, coup de couteau. Donc j'étais dans un milieu mortifère et ensoleillé, la mort, c'est presque la mort heureuse de Camus, là, on est là, c'est la mort, mais la mort au soleil, quoi. Elle est très romanesque.
Votre surnom ?
Ah, mon surnom, c'était Le Gros. Le Gros ou King Kong, ça c'est la police qui me surnommait comme ça, parce que j'avais un peu d'embonpoint. Quand vous sortez, des fois nous on mangeait le soir à 9h, quand on rentrait de discothèque, on en retournait au restaurant et tout. Et c'est vrai que j'ai joué au football. Après, j'ai tout arrêté. Quand je sortais la nuit, je ne pouvais plus aller jouer au football. Donc c'est là où vous prenez un peu d'alcool, un peu de la bouffe et vous prenez du poids. C'est presque tous les gens de la nuit, ils prennent un peu de poids. On faisait la fête, quoi, voilà. La fête, que peut-être par rapport au risque qu'on prenait, on disait, tiens, on ne sait pas, mais voilà.
Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous avez décidé d'écrire et comment ça s'est passé, cette écriture ? Vous étiez où ? Vous écriviez sur quoi ? Comment ?
Sur des cahiers, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur et tout. Après, quand j'étais en centrale, ouais, j'avais l'ordinateur. Mais j'ai écrit et après, j'ai déchiré. Je trouvais que ça faisait prétentieux, ça faisait des choses comme ça. Mais j'ai toujours aimé écrire. Je me rappelle à l'école, ma meilleure matière, c'était les rédactions. Voilà. Et puis, quand je suis sorti... Un jour, j'avais mes trois petits-fils. Ouais. Mes trois petits-fils étaient à la maison. Et ils repassent un reportage. Et là, mes petits-enfants, ils découvrent qui j'étais. Et là, j'ai dit, allez, je vais écrire mon livre. Et j'ai repris l'écriture chez moi, donc avec l'ordinateur et tout.
Donc le brouillon, il existait déjà
Dans la tête, ouais. Il écrivait vraiment au crayon noir. Et après, dans la tête, il était tout en place, quoi. C'est pas un truc d'écrivain, hein, c'est plus des souvenirs.
Dans ce texte, il y a tout un langage.
Ouais. Un langage de chez nous, hein, de la banlieue.
Joncaille.
Joncaille, c'est l'or. Quand on met le mec qui fait une bijouterie, il va vendre son or. Donc, vous savez, la joncaille, après il y a la sénacaille, ça c'est en gitan, il y a plein de choses comme ça. Mais quand arrivait, tu donnais, ouais, il y a tant de kilos, hop, vas-y. C'est la négociation, c'était ça. Nous, on ne fondait pas. J'en ai connu qui fondaient pour mettre à gauche, à plat, quoi. Mais nous, non, on voulait nos sous.
Envoyer les mains.
Envoyer les mains. Ça, c'est... On a entendu ça des grands, nous. C'est aller voler. C'est... Tout ce qu'on peut prendre avec les mains, on ne prend pas avec les yeux, comme on disait, nous.
Être cuit aux patates.
Ah, ça c'est une expression, c'est l'expression, c'est se faire serrer, cuit aux patates, t'arrives chez le juge, il t'annonce, il te reproche plein de choses comme ça, toi. C'est une expression qu'on a apprise, pareil, par les vieux.
Hein. Natchav.
Natchav, c'est du gitan, ça veut dire s'arracher, s'évader, snatchav, fuir, voilà, fuir.
Me revoilà. Ce matin, je m'occupe de toi. Nous nous aimons en nous écrivant. Même si nous ne parlons pas forcément d'amour, c'est quand même l'amour qui nous fait nous écrire. En t'écrivant là, maintenant, je fais pareil. Mon stylo court doucement sur le papier. Je ne cherche pas mes mots, je ne reviens pas en arrière. Je ne cherche pas non plus ce que je vais te dire la ligne suivante. Je suis avec toi, je te caresse avec mes mots. Je regarde le paysage intérieur que tu suscites en moi tranquillement, paisiblement. Je suis bien, quoi.
Il y a un mot aussi qui court dans vos lettres, c'est le mot abandon. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes senti abandonné à vous-même, mais ensuite que vous avez appris à vous abandonner à l'autre ?
Ouh, alors là, l'abandon à l'autre, ça c'est une autre paire de manches. Ça a été très très long. Très très long. L'abandon à l'autre, ça c'est quelque chose de débloqué, décadenassé, très très difficile, non pas par refus délibéré, mais par une espèce d'impossibilité, de grande difficulté. L'abandon, oui, je pense que j'étais affligé d'une névrose d'abandon étant jeune, hein, bien sûr, quand on est orphelin, qu'on ne comprend pas pourquoi, on n'est plus dans la métaphysique, on est quand même dans la réalité de tous les jours. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, enfin bon, c'est dur à vivre, c'est ce manque, cette absence, c'est un trou. Et donc ça, c'est l'abandon. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a quand même certainement... qui a toujours été à l'intérieur de moi. Alors est-ce que c'était inversement proportionnel, exprès, que moi, j'arrivais pas à m'abandonner, hein, alors que j'étais un abandonné par le sort, pas parce que mes parents m'ont abandonné, mais j'étais abandonné par le sort. Pourquoi moi, j'arrive pas à m'abandonner, à m'ouvrir, peut-être parce que j'avais pas appris. Je pense que pour apprendre à s'ouvrir, il faut peut-être avoir été aimé déjà au départ, ou s'être ressenti aimé, parce que j'ai pu être aimé sans m'en rendre compte. Mais s'être ressenti aimé vraiment, ben, ça vous apprend à vous ouvrir. Moi, ce n'était pas le cas, donc j'ai mis un certain temps à découvrir l'abandon. Voilà.
Je ne reviendrai pas, jamais. J'ai su depuis le jour où tu m'as écrit « Je t'aime » que j'en étais resté les bras ballants de chaque côté de mon lit, que cet amour était un enfant si handicapé par son hérédité qu'il ne pourrait vivre, un monstre enfanté par la prison que j'aurais dû étrangler dans son berceau. J'aurais dû me faire Romain, j'aurais dû l'appuyer contre un mur de la cellule et lui enfoncer une dague dans le cœur. Je n'aurais pas dû le regarder, essayer de le faire sourire alors qu'il ne pouvait que grimacer. Cet amour, tu as cru qu'il était ton enfant, qu'il deviendrait notre clair enfant. C'est pourquoi tu le voyais si beau. Il était destiné à me sauver en se glissant doucement, tendrement, chaudement en moi. Il devait m'enlever à moi-même sans que je m'en aperçoive, me transporter vers toi, vers d'autres rivages, loin, loin, loin de la souffrance et du malheur, de l'aliénation du passé. Oui, ben je lui ai dit la vérité. C'est vrai que quelqu'un sans que ça soit du tout péjoratif ce que je vais dire, une bourgeoise qui tombe amoureuse de vous, vous sortez au bout de je sais pas combien d'années de prison, plus ou moins à la rue, ben ça peut aider, gravement même. Bon, ben, j'ai pas voulu de ça. Hein. Je vais te porter un coup terrible, reçois-le comme le seul geste honnête que je puisse encore accomplir vis-à-vis de toi, tout le reste serait une sale petite crapulerie. Adieu.
Mais la Caillole, cette correspondance existe pendant 5 ans ?
Oui, je crois, oui.
Mais cette correspondance, pour vous, c'est une correspondance privée.
Tout à fait.
Et alors, comment ça se fait qu'elle est publiée ?
Alors, je suis sorti en liberté conditionnelle. Donc, ma correspondante était très heureuse. On s'est vu et revu, évidemment. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, j'ai une idée, j'ai un peu travaillé sur nos lettres, ça serait bien... qu'on les publie, j'ai fait un choix, bon. Ben, je dis, ben oui, fais ce que tu veux. Moi, j'avais pas dans ces lettres, j'ai rien à cacher. Et je sentais que c'était, ça, elle avait travaillé, ça lui faisait... en plus, les lettres, c'est son truc à elle. Donc, j'ai donné mon accord. Je lui ai donné mon avis, je lui ai dit, la préface t'enlève, l'intertexte t'enlève aussi.
Et le titre ?
Et le titre aussi t'enlève. Bon,
le titre, c'était quoi ?
Lettre en liberté conditionnelle.
Claude Lucas, où est Christian Lorme ?
Aujourd'hui ? Il y a plusieurs possibilités pour répondre à ça. Où est Christian Lorme ? D'abord, Christian Lorme, je l'ai tué à la fin du roman. Il est toujours dans mes initiales, c'est elle, Claude Lucas, Christian Lorme. Mais je l'ai tué à la fin du roman. Mort symbolique, hein, bien sûr. Entièrement symbolique. Et il est devenu ce à quoi sa mort le destinait. Ce n'est pas une mort comme ça, un arrêt. La mort symbolique, c'est la mort qui permet une renaissance. Donc, le Christ en l'orme, il est là aujourd'hui, bien sûr, c'est moi, Claude Lucas, mais dépouillé, nettoyé, assumé complètement. Bien.
Un regret ?
Le regret, c'est le mal qu'on fait aux siens. Le deuxième, de ne pas avoir vu grandir mes enfants normalement. Et puis voilà, après, ma vie, c'est ma vie. Je n'ai pas regretté. Ça serait hypocrite de ma vie. J'en ai profité. J'ai profité de la prison aussi, mais j'ai profité, j'ai vécu, j'ai connu des choses que j'aurais peut-être jamais connues en allant à l'usine. Voilà. Des regrets, non. Que familial.
Vous avez passé 24 ans en prison ?
Ouais. 24 ans, ouais. 24 ans.
La femme qui est dehors, elle vous attend tellement qu'en fait, dehors, je l'ai ressenti comme ça, elle m'a mis la pression. Alors voilà, tu es mon amour, tu es à moi, je te lâche pas. Moi c'est un truc, j'ai pas supporté, bon ça a cassé. Ça a cassé, mais la manière dont j'ai écrit la lettre, on est resté très amis, et on s'est revus régulièrement, et là je la revois toujours. Et on parle toujours de lettres, de choses comme ça. Du reste, elle a continué de publier des correspondances de gens pendant la Révolution, de choses comme ça. Elle a continué dans cette voie-là. Alors que moi, j'ai complètement arrêté, quoi.
Les condés sont toujours sur vos endosses ?
Je sais pas. Peut-être.
Donc il n'y a pas une vie d'avant, une vie d'après. C'est toujours la même vie.
Toujours. Et on t'oublie pas. On t'oublie pas. Tu as beau être... déjà, ils ne te croient pas que tu peux faire du cinéma, que tu peux écrire, que tu peux faire des scénarios. On ne croit pas. Et puis, je suis à la retraite. Hein, je ne suis plus jeune non plus.
Vous avez quel âge ?
70.
Donc l'épilogue.
Il y aura suite sans doute. En France, un nouveau procès aura lieu et j'y serai condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Quelques mois avant ce procès, Suerte, le roman écrit au prix de tant d'efforts dans les prisons d'Espagne et si souvent évoqué dans ses lettres, sera publié par Jean Mallory dans sa collection Terre humaine. Auréolé de ce label, il sera le sésame qui, 4 années plus tard, m'ouvrira les portes de la prison, d'abord sous le régime des permissions de sortie, puis sous celui de la libération conditionnelle. Hélène et moi sommes partis vivre sur une île. Au bruit des clés et à la rumeur des coursives succèdent aujourd'hui les cris des goélands et le grondement du ressac. La falaise tient lieu de hauts murs. Cependant, s'il y a similitude apparente dans le retirement ou l'enfermement, il y a rupture absolue et belle rupture. Hélène et moi sommes ensemble, ni le temps ni l'espace ne nous séparent plus, l'infini s'est substitué à l'interminable. Bref, nous n'avons plus besoin de nous écrire.
Des hommes en toutes lettres, avec Claude Lucas, auteur de Suerte, publié chez Plon, et Amor Mio, correspondance, paru aux éditions Jacqueline Chambon. Avec aussi Alain Cayol, co-auteur avec Mireille Bonnel de Lettres en liberté conditionnelle, paru aux éditions Pocket, et Michel Lepage, auteur de Banlieue Sud, ma vie de gangster, publié chez Grasset. Sur les docks, attaché de production Christine Bernard et Alison Sinard, mixage Eric Boisset, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.